La marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Et voici le vol nuptial du martin pêcheur qui papillonne au-dessus de l'eau comme un bijou bleu et vert.
Cette semaine, Valérie Chansigaud ou l'immense toile de la nature. Épisode numéro 2, des hommes et des oiseaux.
Halt ! Qui va là ?
C'est moi, Arthur, du château de Camelot.
Vous êtes venu à cheval ?
Oui !
Vous utilisez des noix de coco ?
Quoi ?
Vous avez deux noix de coco et vous les frappez ensemble !
Et alors ?
La noix de coco est un fruit tropical.
Que voulez-vous dire ?
Eh ben ici, c'est un climat tempéré.
Même si l'hirondelle vole vers le sud avec le soleil, et même si le martinet ou le pluvier recherchent des climats plus chauds en hiver, ils ne sont toutefois pas étrangers à nos contrées.
Quoi ? Une hirondelle transportant une noix de coco ?
Elle peut la prendre par la tige.
Martinet, pluvier, hirondelle, ce jour où on se souvient de la crèche, nous allons considérer les nids des oiseaux et les œufs qu'ils contiennent, qui ont fait le plaisir des collectionneurs, et l'envol des juvéniles, c'est ainsi qu'on dit, que la photo sait si bien saisir. Le sujet du jour sera donc l'ornithologie. À elle seule, elle en dit long sur les questions que rencontrent toutes les sciences naturelles. Elle a commencé dans une certaine imprécision, peu à peu, les erreurs sont tombées d'elles-mêmes, les collections sont devenues des institutions, les classifications se sont affinées, sans que les caractères originaux de la discipline ne disparaissent. Ainsi, l'illustration naturaliste traditionnelle est-elle toujours vivante, alors que pour les documentaires de la télé ou du net, on utilise maintenant les caméras miniaturisées les plus sophistiquées. À la fin du 19e, a débuté, chez les ornithologues, la même évolution qu'ont connue les autres sciences naturelles. Les uns et les autres sont passés de la gâchette à la paire de jumelles. La protection des oiseaux est un souci depuis les années 1880 et une priorité depuis. Il reste que la société française qui s'en préoccupe, la Ligue de protection des oiseaux, regroupe moins de membres que ses équivalents anglo-saxons. Là encore, l'ornithologie rend évidente une autre constante qu'on retrouvera tout au long de la semaine, le décalage français dans le combat pour la nature.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Valérie Chansigaud, bonjour.
Bonjour.
Alors, parmi vos innombrables productions, il faut dire que chez vous, vous avez une banque de données numérisées impressionnante dans laquelle vous puisez pour fabriquer, allez, je vais lancer le mot, des produits. Vous n'hésitez pas à l'utiliser, ce mot. Et chez Delachaux et Niestlé, vous avez, comme ça, fait deux livres apportant l'essentiel, l'illustration, le texte, la maquette. L'un sur l'ornithologie et l'autre sur l'illustration naturaliste. Ce sont des produits.
Oui, alors le mot produit est assez péjoratif dès qu'il s'agit de livres, parce que quelque part ça peut heurter, mais disons que c'est... Moi je parlerais d'objet peut-être plus que produit. Il y a moins une dimension
vous ne
marketing.
Récusez pas toujours le mot. Mais vous êtes anarchiste, alors parlons d'objet.
Ce sont des objets culturels pensés en tant que tels. C'est-à-dire, par exemple, l'histoire de l'illustration, c'était vraiment un voyage d'abord que j'ai fait dans les archives pour rassembler des images et de les sélectionner en fonction de leur qualité à la fois esthétique, de leur pertinence historique et de ce que cela pouvait apporter à mon propos, qui était de retracer, dans un cas, l'histoire de l'ornithologie, dans l'autre cas, l'histoire de l'illustration.
Oui, mais on n'aurait pas fait la même chose pour les araignées, une passion de jeunesse, raisonnée hein, depuis. C'est quand même un bel objet, l'oiseau.
L'araignée aussi est un bel objet.
Oui, mais c'est plaisant, l'oiseau.
Disons,
on va avoir des
plaisant.
Gravures d'oiseaux chez soi, un oiseau dans une cage chez soi.
Oui, mais ça tient beaucoup plus à la nature de notre regard qu'à la nature de l'oiseau ou de l'araignée. C'est-à-dire, là, pour le coup, on est dans cet univers du préjugé culturel qui nous fait dire de façon évidente que l'oiseau est plus beau qu'une araignée.
Mais enfin, tous les enfants, en ce jour de Noël, savent que l'oiseau, c'est une joie. On va commencer en essayant d'imaginer ce que pouvait être l'état d'innocence des premiers collectionneurs d'oiseaux et en le comparant avec ce qui se passe dans une classe idéale. Vous savez, la classe telle que l'imaginent les anarchistes, Sébastien Faure en 1904, la ruche à Rambouillet, un milieu libre situé en pleine nature et où les enfants écoutent le bourdonnement des abeilles, recueillent, soignent, échangent des oiseaux.
Alors, tu vas être sage ?
Oui, mademoiselle.
Tu vas bien m'écouter ?
Oui, mademoiselle.
Oh, c'est bien ça. Allez, viens. Voilà ta place, André. Tous les oiseaux que vous avez entre les mains ont les proportions exactes. Alors, au toucher, vous devez les reconnaître. Ah, Paul, qu'est-ce que tu tiens ?
Un oiseau ?
C'est une buse. Donne-moi ta main. Tu sens son bec crochu ?
Oui.
Là, là, elle a des ailes beaucoup plus courtes que la queue. Tu sens ?
Oui.
Aux pattes, elle a des grandes griffes. Ce sont des cerfs. C'est un oiseau de proie. Il mange les petits rongeurs. On dit qu'il n'est pas très intelligent. C'est pour ça que certains humains, on dit qu'ils sont sots comme des buses.
Tu vois, André, un perroquet, un vrai. Tu l'as déjà touché ?
Non.
Mademoiselle dit qu'il a un drôle de bec et des plumes de toutes les couleurs.
Et maintenant, échangez vos oiseaux.
Bon, évidemment, le milieu des collectionneurs, on va le prendre dès le Moyen-Âge ou pendant la Renaissance. Ça ne correspond pas exactement au milieu scolaire. Libre et gratuit, qu'on évoquait il y a un instant. Cependant, il y a les mêmes passions, les mêmes désirs. L'échange, le spécimen, l'observation, la mesure.
Oui, il y a l'idée de collectionner des objets naturels existe depuis toujours, du moment que l'idée de la collection existe. C'est-à-dire, dans la collection, on va collectionner beaucoup de choses. On va collectionner des objets fabriqués par les êtres humains comme des pièces, mais aussi, effectivement, des coquillages, des plumes, des restes d'animaux absolument extraordinaires. Ce qui va être une limite à cet exercice, dans le cas des oiseaux, c'est la capacité, la maîtrise de la conservation des dépouilles au fil du temps. Parce que
c'est là qu'on retrouve nos amis les insectes.
Exactement.
Les insectes qui vont gêner la naturalisation de longue durée.
Disons, ils vont recycler ce que l'on cherche à préserver extrêmement vite et beaucoup trop vite aux yeux et au goût des collectionneurs. Il faut imaginer qu'une bonne partie des collections récoltées durant les grands voyages du 18e, comme le voyage de Cook, beaucoup des oiseaux récoltés alors ont disparu au fil du temps, mangés par les insectes. Et c'est à la fin du 18e, début 19e, qu'on met en place des méthodes de conservation qui vont d'ailleurs être tellement efficace, parce que ça repose sur des substances toxiques pour les insectes, mais parfois aussi toxiques pour les ornithologues qui finissent par en mourir.
Si la conservation est difficile, la dissection est indispensable.
Elle peut être indispensable dans certains cas. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de recherches sont faites sur des oiseaux trouvés morts le long des routes, qui sont récoltés et envoyés à des institutions, et pas forcément sur des prélèvements faits dans la nature. C'est une évolution. Pendant longtemps, on n'a pas eu du tout ces scrupules. Être ornithologue, c'était être un bon chasseur d'abord et avant tout. On peut dire d'ailleurs que l'ornithologie, c'est la fille aînée de la chasse, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ornithologie sans chasseur. Les liens entre les deux sont extrêmement forts. On cite souvent ce prêtre britannique qui interrompait parfois les offices pour prendre le fusil qu'il avait mis dans un coin, sortir devant son église pour tirer un oiseau qu'il avait entendu. C'est vraiment quelque chose qui est étroitement lié. Et ce qui peut paraître très étonnant parce que aujourd'hui, l'ornithologue est un protecteur des oiseaux et pas forcément strictement un chasseur.
Mais mieux vaut avoir l'oiseau en peinture que naturalisé, devenu nourriture des insectes, la peinture.
La peinture, la gravure, tout ce qui est l'illustration, parce qu'on retrouve ce lien avec la collection dans la passion qu'ont les naturalistes en général et les ornithologues en particulier pour les beaux livres, les livres illustrés, qui sont parfois, il faut bien imaginer que tout le monde a en tête ces gravures du 18 ou du 19e siècle, ces belles gravures peintes à la main et qui sont rassemblées dans des ouvrages qui coûtent des fortunes, à tel point que beaucoup de livres ne sont pas détenus par des ornithologues, mais uniquement des collectionneurs.
Alors, vous répétez sans arrêt que vous n'avez pas les moyens d'acheter Audubon. Alors, Audubon, essayez de nous décrire quelle taille ça fait.
Audubon est un phénomène de l'édition et des collectionneurs parce que c'est un double éléphant. C'est quelque chose qui fait un bon mètre de haut. C'est un format absolument gigantesque. Bah, tout simplement parce qu'il voulait illustrer les oiseaux grandeur nature. Donc, quand c'est un petit oiseau, un petit passereau, ça va. Mais imaginez un échassier, un flamand, par exemple. Il faut qu'il puisse tenir dans la page. Malgré la taille de son format, il est obligé de peindre ces oiseaux pliés dans des postures assez peu anatomiques pour que ça rentre quand même dans son double éléphant.
On m'appelle désormais John James. Alors, je suis un marginal né. À une époque où tout le monde fait de la peinture académique et bourgeoise, je suis un peu fou. Je ne pense qu'à peindre des sauvages, des peaux rouges, des oiseaux et des castors. La large pente douce du Kentucky s'ouvre devant moi. J'y trouve et dessine des myriades d'oiseaux, des aigrettes blanches, des hérons de nuit à couronne noire, des canards huppés, des grues blanches, butors, grives de Caroline ou oiseaux-chats. Ça sent le feuillage, l'humus, les fruits, myrtilles, kakis, mûres, sumac, le tabac des plantations. Ça sent la forêt. Déjà enfant, lorsque je pouvais m'aventurer hors de chez moi, je courais après les oiseaux. C'était la liberté. Liberté que les oiseaux ont toujours représentée pour l'homme enchâssé dans la terre.
Alors tout est numérisé maintenant. Le grand Audubon, il est chez vous disponible.
Oui, ça c'est merveille de la technique, mais c'est vrai que la numérisation a changé complètement le travail sur ces livres qui sont, par définition, qui sont rares, qu'on ne peut pas manipuler sans les dégrader, forcément. Il y a toujours une usure de la consultation des archives, et c'est vrai que le numérique a permis d'accéder à un ensemble de données qui seraient pour l'essentiel inaccessible.
Audubon, alors, vous le présentez dans votre histoire de l'ornithologie comme ayant une propriété dans les Caraïbes, une villa à Nantes, des intérêts en Amérique, une vie en Angleterre. L'ornithologie naît du voyage, de l'échange.
Toute l'histoire naturelle naît de ces voyages et de ces échanges. Vraiment, ce qui est fascinant quand on voit l'essor de l'histoire naturelle en Europe, à la Renaissance, c'est que c'est tout de suite une question liée aux échanges, aux voyages, à la correspondance qui joue un rôle absolument essentiel. Il y a même d'ailleurs très tôt des listes noires qui sont faites de ceux qui volent les spécimens destinés à un naturaliste. Il faut être effectivement inclus de façon positive dans cette communauté et respecter les règles de cette communauté. C'est vraiment un travail collectif qui est fait, et les voyages servent énormément.
Charles Bonaparte, ça c'est un personnage assez peu connu, c'est le neveu de Napoléon. Napoléon, lui, il faisait main basse sur les collections ornithologiques, comme sur les autres, aux Pays-Bas ou à Lisbonne. Le neveu, c'est un exemple d'échange transatlantique.
Oui, oui, parce qu'il va faire l'essentiel de sa carrière aux États-Unis, en faisant d'ailleurs des ouvrages assez importants sur la faune de ce pays. Mais c'est vraiment l'histoire naturelle est une histoire internationale, pas simplement qu'à cause des voyages, mais encore une fois à cause des échanges, de cette circulation, le fait de se citer. Et l'un des premiers à avoir fait vraiment avoir donné une base scientifique moderne à l'ornithologie est un Britannique qui s'appelle John Ray, et il est célèbre justement pour un grand voyage qu'il a fait en Europe. Il tenait absolument à voir les oiseaux qu'il allait plus tard décrire de lui-même, soit en allant les observer dans la nature, ce qui est quand même absolument exceptionnel à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe, soit en fréquentant les marchés, parce que sur les marchés à l'époque et pendant longtemps, on trouve strictement tous les oiseaux qui existent dans une région donnée.
Alors, il faut combien de spécimens dans une collection ?
Tout dépend quelle est l'utilisation de cette collection. On peut très bien imaginer d'avoir une collection dite de référence. Par exemple, on a un spécimen ou deux spécimens de chaque espèce qui permet après d'avoir un élément de comparaison si jamais on rencontre à nouveau quelque chose qui ressemble à cette espèce. Et puis, on peut avoir besoin, au contraire, d'accumuler un grand nombre de spécimens sur un grand laps de temps, ce qui permet après de faire des études beaucoup plus comparatives. Je vais donner un exemple simple. Quand on a eu les premiers doutes quant au DDT, cet insecticide commercialisé en 1945, qui a modifié la reproduction des oiseaux, eh bien, on a été chercher dans les collections d'œufs conservés depuis très longtemps pour mesurer l'épaisseur des coquilles, parce que ça a permis de comparer par rapport aux œufs des années 50. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, ces œufs diminuaient en épaisseur à cause de l'effet des pesticides.
Les plus grandes collections, elles sont en Europe ou elles sont en Amérique où l'ornithologie est née tout de suite après l'indépendance?
Les plus grandes collections se rencontrent à la fois aux États-Unis en particulier et en Europe, que ce soit à Paris, au Muséum ou à Londres.
Mais je pensais que vous alliez nous dire que c'était dans le domaine anglo-saxon que la primauté était évidente et que la France était comme d'habitude en décalage, en retard.
Non, les Français ont été d'actifs collectionneurs, ils ont été très habiles pour constituer les collections. La collection du Muséum est absolument, c'est l'une des premières mondiales. Donc il n'y a pas de différence à ce côté-là. Par contre, il y aura des différences dans le côté populaire de l'étude des oiseaux. Ça, effectivement, on verra beaucoup plus de différences.
Alors vous n'allez pas dire que Messiaen, qu'on va entendre maintenant, est un compositeur savant?
L'oiseau que vous entendez là est une grive musicienne, c'est un des meilleurs chanteurs, peut-être le plus beau chanteur de France. Vous entendez, ce sont des strophes répétées deux fois, trois fois, quatre fois, mais généralement trois fois, à la manière d'une incantation. Mais ce qui est frappant, c'est le côté impérieux, le côté autoritaire, incisif et clair de cette voix. Je crois qu'une fois qu'on l'a entendu, on ne peut jamais l'oublier. Et voilà un loriot. Vous avez entendu? Ça, c'est un timbre doré merveilleux, c'est tout à fait différent. Celui-là aussi, on ne peut jamais l'oublier. Voilà, les appels les plus célèbres de la grille. Elle a répété plus de trois fois. C'est une exception. Et Madame Loriot qui lui répond.
Messiaen, il utilisait, Valéry Chansigaud, les noms simples. Le Loriot. Son épouse s'appelait Madame Yvonne Loriot. Jean-Henri Fabre disait, il faut utiliser des noms qui font image. Et il y a un grand ornithologue sur lequel vous insistez, Le Vaillant, début du 19e, il faut les appeler le hupard s'ils sont une huppe, il faut les appeler le broubrou s'ils font tel bruit. Le nom simple et les classifications savantes.
La classification a deux buts. C'est-à-dire, il y a la dénomination, c'est-à-dire comment on va leur donner aux différentes espèces un nom, et il faut que celui-ci soit universel. Le problème des noms que vous citez, c'est qu'ils n'ont pas de correspondance facile et évidente dans d'autres langues. Il faut les traduire. La première exigence de ce travail international des naturalistes a été d'avoir des éléments communs pour partager. Et le latin a été utilisé pour trouver cette dénomination en quelque sorte universelle. Si on s'adresse à n'importe quel ornithologue et qu'on parle de pica pica pica, il va comprendre qu'il s'agit d'une pie, que d'une certaine sous-espèce d'ailleurs de pie européenne, et ça va être extrêmement précis. Et puis il y a autre chose, c'est que toutes ces espèces qui reçoivent des noms précis, il faut les rassembler, il faut les regrouper, et il y a un deuxième projet derrière cette dénomination qui est la classification en tant que telle. Les rassembler en fait par grand ensemble. Au début, c'était par affinité morphologique en quelque sorte. Et au bout d'un moment, ça a été l'apport fait par Darwin et sa théorie de l'évolution qui a permis de penser cette classification autrement.
Alors Darwin, le voilà parti en 1831 pour une grande expédition qui va durer 5 ans. Bon, c'est pas un ornithologue.
Non, pas spécialement. Il est plus intéressé par les insectes ou les coquillages, par exemple.
Puis il est tout jeune, 23 ans à son départ. Hein. Bon, ça va pas l'empêcher quand même de rapporter 468 peaux d'oiseaux. Et on va pas calculer le nombre d'œufs qu'il a remporté. Et puis, au Galapagos, où nous allons nous arrêter, avec un extrait d'un film dont je ne garantis pas la véracité, Darwin ou l'Évangile du Diable, d'identifier un groupe d'espèces baptisé les pinsons de Darwin.
C'est certainement aux îles Galapagos qu'a véritablement commencé mon enquête sur la création.
Une enquête sur le créateur, sacrilège, dans son principe même.
Voici la première énigme qui tourmenta un pauvre détective amateur au service de Sa Majesté. Pourquoi n'ai-je trouvé dans ces îles que des animaux volants? Oiseaux, chauves-souris? Devais-je penser que le créateur perd mystérieusement son pouvoir de créer des animaux sans ailes dans les îles situées à plus de 1000 km des côtes? N'est-ce pas injurieux à son égard? Deuxième énigme. Pourquoi, comme par hasard, et s'ils ont été créés sur place, ces animaux volants ressemblent-ils comme des frères à ceux du continent américain qui est le plus proche?
Mais vous avez pu constater vous-même que dans cet archipel, chaque île possède ses espèces d'oiseaux bien à elle et qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
Voilà justement ma troisième énigme. Pourquoi, tout en ayant un air de famille, ces oiseaux sont-ils suffisamment différents d'une île à une autre pour constituer des espèces bien distinctes?
Le créateur n'a de compte à rendre à personne. Il fait ce qu'il veut, là où il le veut, quand il le veut. Et c'est un effet de sa bienveillance que chaque espèce soit parfaitement adaptée à son milieu naturel.
Ça, c'est un pasteur qui défend la fixité du projet de Dieu. Enfin, dites-nous, sans nécessairement revenir sur chacun des points qui ont été développés ici, en quoi l'ornithologie, dans la théorie de l'évolution de Darwin, a eu un rôle?
Elle a eu un petit rôle, mais elle a eu un rôle. Elle a eu un rôle aux côtés d'autres disciplines. Faut pas se leurrer. C'est pas la trame de fond de son célèbre livre sur l'origine des espèces, mais c'est l'un des éléments. La domestication joue un rôle beaucoup plus grand dans son livre, en fait, que l'ornithologie, notamment des oiseaux sauvages. Mais simplement, il va voir dans ces spécimens qu'il va récolter, notamment Galapagos, un phénomène qu'il a observé sur l'élevage de pigeons en particulier, c'est-à-dire que la main du sélectionneur va en fait produire de nouvelles variétés par en fait tout simplement une sélection régulière et répétée, génération après génération, et il va comprendre que ce mécanisme artificiel du sélectionneur est la même chose qui se reproduit dans la nature. Il y a un phénomène qu'il va baptiser la sélection naturelle qui aboutit à l'émergence des nouvelles espèces de la même manière qu'on peut voir l'émergence d'espèces de variétés domestiques. Et il fait le parallèle entre les deux. Et c'est parce qu'il a cette double culture qu'il va pouvoir voir dans la nature ce qu'il a pu comprendre en fait dans la sphère des espèces domestiques.
L'ornithologie va toujours de pair avec les autres disciplines.
Et voici le rossignol. Il éclate tout d'un coup, brusquement. La seconde strophe, ce sont des batteries sur deux sons très célèbres. Tico, 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 tico. Ensuite, dans le grave, un timbre mêlé clavecin et gong qui fait tchou, 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 tchou. Et puis des notes répétées qui se terminent par un torculus victorieux. Tio 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 tio, la borix. Et enfin des sons lents, lunaires, lointains. On croirait que ça vient d'une autre planète et que l'oiseau est parti bien bien loin ailleurs Et puis tout d'un coup, il est là et il y a une phrase formidable et très rapide pour finir et très forte.
L'oiseau est un être trop beau pour être détruit sans but. C'est pas Olivier Messiaen qui dira le contraire. Alors comment s'organise, quand commence la protection des oiseaux?
Très vite, on est persuadé, quand je dis très vite, c'est dès le début du 19e siècle, on est persuadé de voir, d'assister à la disparition progressive des oiseaux. Ça, on en est absolument convaincu.
James Cook, dès son premier voyage, observe que tel chef de tribu vit couvert de plumes d'oiseaux qui vont disparaître.
Alors, à son époque, on n'a pas encore l'idée ou de certitude sur la disparition possible des oiseaux. Ça intervient un petit peu plus tard. Mais là, pour le coup, les oiseaux vont servir de modèle. La première espèce dont la disparition est attribuée de façon certaine à l'être humain, c'est celle du dodo. Le dodo est un grand oiseau de l'océan Indien qui va disparaître suite à la découverte de cette île par les voyageurs venant d'Europe. Et c'est un oiseau qui est dans des collections.
Ravagé par les insectes.
Par exemple, il y a un spécimen à Oxford dont ne garde qu'une sorte de patte et de momifié et de cou.
Je ne vous fais pas dire.
C'est absolument dans un état lamentable. Il faut dire qu'on n'en a pas pris un grand soin. Et le dodo va servir de modèle. C'est-à-dire qu'au 18e, Buffon, Brisson et d'autres vont dire on ne trouve plus de dodo, mais on n'a pas été le chercher là où il fallait, notamment à Madagascar. Début 19e, on sait qu'il a disparu et que le fautif est l'être humain.
Oui, enfin, le fautif est l'être humain. J'insiste sur les insectes parce que la protection des oiseaux, à partir des années 1884, premier congrès international d'ornithologie à Vienne. Elle est la conséquence de la réflexion sur les dégâts des insectes. Et l'oiseau mange les insectes.
C'est ce qui est intéressant dans la relation entre l'oiseau et l'insecte, c'est que ça repose sur une philie et une phobie qui vont ensemble. Il y a une ornithophilie, notamment de ces oiseaux chanteurs qui peuplent les jardins et qui ont la bonne idée de manger les insectes, et une entomophobie qui considère que si les insectes sont pas limités par les oiseaux, ils vont se publier de telle façon qu'ils vont faire disparaître l'être humain. Et donc, on cherche à protéger l'oiseau, notamment, parce que c'est pas la seule raison, parce que c'est la seule défense que l'on voit contre les insectes. Il y a une autre raison, c'est qu'on estime que c'est des créatures qui peuvent souffrir et que leur destruction aveugle et déraisonnée est absolument un crime et qui représente une menace contre l'ensemble de la société. C'est vraiment une menace qui pèse sur tous, en fait.
En tout cas, l'ornithologue cessera de se représenter avec un fusil à la main, comme le faisait encore Audubon, dont on entendait le témoignage tout à l'heure. Et c'est plutôt la jumelle et la caméra. Vous êtes une fan de photos et de cinéma animalier.
Ah, c'est quelque chose qui a... Les documentaires animaliers ont nourri mon enfance, justement. C'était l'un des rares façons pour moi de découvrir la nature. Ce qu'il faut remarquer, c'est que ce changement d'attitude, c'est-à-dire l'abandon du fusil pour la paire de jumelles ou l'appareil photo, a été largement poussé et permis par les femmes en ornithologie, notamment dans les pays germanophones ou anglophones. Et le rôle des femmes dans toute cette histoire de cette protection des oiseaux est absolument fondamental.
C'est pour ça qu'il faut que je cite, à côté de votre histoire de l'ornithologie, de votre histoire de l'illustration naturaliste, un livre, toujours chez Delachaux et Niestlé, qui s'intitule « Des hommes et des oiseaux ». Merci à vous Valérie Chansigaud. L'émission a été préparée par Martin Cellier. La réalisation, Liscom, à la technique, Paul Percheron.